Sans oser le demander, Géraldine Mosna-Savoie.
Qui n'a jamais été quitté ne peut pas comprendre la soif de vengeance qui d'un seul coup efface l'amour pour laisser place à la haine. Les phrases assassines qu'on imagine, les coups bas qu'on se monte dans la tête, l'envie irrépressible de faire du mal à celui ou celle qui a osé nous délaisser. L'histoire de Madame de la Pommeraye, personnage imaginé par Denis Diderot à la fin du XVIIIe siècle, cristallise parfaitement cette soif. À ceci près qu'elle, Madame de la Pommeraye, passe à l'acte. Alors, comment faire? Comment humilier son ex-amant? Comment lui en faire baver? Une vengeance peut-elle réussir ou est-elle forcément insatiable? Réponse avec Diderot et Madame de la Pommeraye, ici interprétée par Maria Cazares.
Depuis quelque temps, j'hésite à vous dire quelque chose. Je craignais de vous faire du mal.
Du mal, toi?
Eh bien voilà, Jean. C'est arrivé peu à peu, malgré moi. Sans que je puisse me rendre compte. Je ne riais plus, je ne dormais plus, je me demandais si cela venait de vous, non. Vous êtes pareil et merveilleux comme d'habitude. Vous êtes pareil et moi je change.
Hélène.
La découverte est affreuse. Mais je vais être franche. Mon cœur se détache de vous.
Hélène, vous êtes merveilleuse. C'est vous qui avez parlé la première, c'est moi qui ai été coupable le premier. L'histoire de votre cœur est, mot pour mot, la triste histoire du mien. Tout ce que vous vous êtes dit, je me le suis dit. Mais je me taisais, je souffrais, je n'osais pas vous en ouvrir la bouche. Quelle leçon!
C'est vrai?
C'est vrai.
Bonjour Florence Lautry.
Bonjour.
Vous êtes professeure de littérature du XVIIIe siècle à l'Université Paris-Cité. Vos travaux portent sur les questions de genre et de représentation des sexualités, le roman des Lumières, les relations entre littérature et politique au tournant du siècle et les imaginaires de la Révolution française. Cette année, vous allez tenir un cours pour les agrégatifs sur Diderot, donc ça tombe bien. Vous nous parlez aujourd'hui de Madame de la Pommeraye, qui est un récit de Denis Diderot qu'on vient d'entendre ici adapté par Robert Bresson en 1945. Est-ce que Madame de la Pommeraye est une héroïne que vous avez tout de suite aimée en lisant Diderot?
C'est une héroïne qui m'a intéressée. Aimée, je ne sais pas si je ne sais pas si c'est le mot qui conviendrait. Je ne sais pas si c'est ce que cherche le texte de Diderot.
Fascinant.
Il cherche à rendre les personnages intéressants au sens du XVIIIe siècle, hein, c'est-à-dire des personnages qui vont nous capter, quelle que soit la situation morale dans laquelle il les place, et qui vont aussi beaucoup nous toucher, nous émouvoir. Il faut que ça nous émeuve quasiment jusqu'au sang. Enfin, il a là-dessus des mots extrêmement forts, hein, sur l'effet que doivent produire les personnages de la fiction et la fiction en général. Et cette Madame de la Pommeraye fait partie des personnages de Diderot qui nous captent tout de suite parce que ce sont les personnages à travers lesquels il expérimente les passions extrêmes. Et ça, c'est quelque chose qui le sollicite beaucoup. Et l'exceptionnalité de certaines passions dans certains individus qui sont dotés de ce qu'il peut appeler un héroïsme, hein, et qui en l'espèce est un héroïsme dans le mal. Et donc, il sollicite beaucoup son lecteur, moralement, sur les émotions qu'il éprouve devant la trajectoire de tels personnages, devant leur noirceur, et une noirceur qui est pas si facile à décider quant aux conclusions, hein, morales qu'on peut en tirer.
Oui, en lisant Madame de la Pommeraye, on va pas se dire elle est forcément, c'est la passion de la vengeance, on va dire qu'elle incarne ça, la passion, l'amour qui prend une forme vengeresse, mais on se dit pas à la fin du récit elle est méchante ou telle personne est gentille, c'est pas aussi facile que ça.
Non, c'est pas facile et ça l'est d'autant moins que Diderot nous laisse beaucoup de marge de manœuvre interprétative. Il ouvre sur plusieurs voies qui vont commenter le récit une fois qu'il s'est tenu, et il nous laisse devant une discussion, pas devant une conclusion. Jamais il ne fait ça. Et notamment dans les contes qui sont toujours écrits dans un écrin de discussion où il y a une voie narrative qui elle-même est prise dans une discussion initiale et puis ensuite à la fin du conte. Hein, il joue beaucoup avec ce dialogisme-là, ce qui fait que à aucun moment, on ne peut pas clairement situer les voix qui sont les voix d'autorité.
Mmh.
Et puis, à aucun moment non plus, on ne peut se situer clairement par rapport à une déposition ou à une autre, parce qu'il se trouve que l'histoire qui suit, ou les histoires qui suivent, viennent contrarier le schéma de l'histoire qu'on vient de lire de toute façon.
Est-ce que justement vous pouvez nous dire quelle est cette histoire de Madame de la Pommeraye? Parce que l'extrait qu'on a entendu, où cette femme, interprétée par Maria Cazares, donc Madame de la Pommeraye, mais dans le film de Bresson, Hélène, dit à son amant qu'elle ne l'aime plus.
Oui.
Son amant dit « Quelle merveille !» On a l'impression que c'est la meilleure rupture du monde. Mais en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça, puisque Hélène aime encore son amant, mais elle a voulu le pousser à dévoiler ses sentiments parce qu'il était trop lâche pour la quitter. C'est bien ça?
C'est ça. Donc elle monte une mystification, qui est d'abord une mystification de mots, hein, et on entend merveilleusement bien dans la voix blanche récitante de Cazares qu'elle est en train de dire quelque chose qui est à côté de ce qu'elle éprouve. Et là, c'est tout l'intérêt du film aussi, hein, du cinéma, c'est-à-dire qu'on voit sur le visage de Cazares une vie intérieure qui contrarie complètement ce qui est en train de se dire. Donc c'est une ruse du langage pour conduire l'autre, en effet, comme vous le dites très bien, à sortir de sa lâcheté. Et quelque chose qu'on entend aussi très bien dans l'extrait que vous avez diffusé, c'est le moment d'effritement. Lorsque la révélation se fait, hein, c'est vrai. Et c'est vrai, est à la fois un constat et une surprise extrême. Donc on est là dans une espèce de vibration, mais qui doit nous toucher beaucoup, hein, parce que vous dites c'est une femme qui se venge, c'est d'abord une femme bafouée. C'est d'abord une femme qui est contrariée dans ce qu'elle pense être la fidélité et une certaine éthique du couple.
Donc c'est l'histoire...
Une certaine éthique de l'engagement dans le couple.
Donc c'est l'histoire assez simple au départ d'une femme qui n'est plus aimée et qui a envie de se venger de ce désamour. Est-ce qu'on peut le dire comme ça ou est-ce que là c'est déjà trop simple?
Il manque déjà des éléments, puisque Madame de la Pommeraye s'est engagée avec le marquis des Arcis à la suite d'une longue séduction à laquelle elle a tenu à résister longtemps parce que sa position dans le monde n'était pas celle d'une femme facile. Mais au contraire, d'une femme qui, à l'issue d'un mariage malheureux, je crois qu'il faut le dire tout de suite aussi, parce que c'est la condition des femmes de l'époque, hein, à l'issue d'un mariage malheureux, s'est promis de ne pas retomber dans les ornières d'une possible violence masculine ou d'une asymétrie de rapport dont elle ferait les frais. Donc c'est quelqu'un qui a construit aussi toute une position de femme vertueuse, et c'est cette position qui s'est trouvée ruinée par son engagement, et qui va se retrouver une seconde fois ruinée, par le ridicule d'être quitté. Donc il y a aussi cette question mondaine du regard des autres qui intervient, hein, assez fortement dans la position qui est la sienne, qu'elle prend, et qui nous permet aussi de comprendre comment la machination se veut aussi la perte sociale du marquis. Pas seulement une perte morale, une épreuve du sentiment, mais bel et bien aussi une épreuve de la flétrissure sociale. Parce que c'est ce qu'elle vit elle-même. Donc ce contexte social est très important.
L'histoire de Madame de la Pommeraye a connu une postérité étonnante parce que, il faut le dire, cette histoire, elle se trouve au milieu de Jacques le Fataliste, donc qui est un roman de Diderot, mais c'est un récit qui est enchâssé dans ce grand récit et qui est devenu presque autonome, c'est-à-dire qui s'est détaché du livre de Diderot pour être adapté au cinéma. On l'a entendu chez Robert Bresson, on l'entendra tout à l'heure chez Emmanuel Mouret. Pourquoi le succès de ce texte indépendant, en fait, qui a vécu sa propre vie? Est-ce que c'est l'histoire qu'il raconte qui est particulière? Est-ce que c'est cette histoire de vengeance? Est-ce que c'est le point de vue féminin? Est-ce que c'est cette histoire de passion? Le ton moraliste, mais pas moralisateur de Diderot? Qu'est-ce qui se joue dans ce texte?
Il y a tous les éléments que vous venez d'énumérer qui constituent en effet la possible autonomie du texte. Puis il y a le fait que dans la structure générale de Jacques, c'est une structure capricante, hein, où Jacques et son maître cheminent et puis se racontent des histoires qui sont généralement interrompues d'ailleurs, hein, comme celle-là l'est dans son contexte, on en parlera certainement incessamment. Mais cette histoire-là, elle est longue, elle est en plein milieu du roman et elle est moins interrompue que d'autres. parce que justement, elle fait l'objet d'une mise en scène de l'intérêt qui prennent les auditeurs. Et Jacques lui-même, qui n'a qu'une passion, parler, parvient à se taire et à attendre la suite de cette histoire, et puis à s'y plonger complètement, à exprimer la peur où il est de ce qui va suivre, alors même que lorsque l'histoire commence, on peut dire que les deux auditeurs savent déjà la fin. La fin, c'est le mariage saugrenu, hein, ça nous a été annoncé avant par l'hôtesse qui dit « je vais vous raconter l'histoire de ce gars que vous voyez là dans l'auberge. Il, alors lui, il a fait un mariage saugrenu, je m'occupe de mes affaires, je reviens immédiatement et je vous raconte tout ça. »
C'est vrai que c'est le marquis des Arcis, c'est
ça. Voilà,
c'est celui qu'on a entendu dans l'extrait de Robert Bresson dire « quelle merveille cette rupture ». Donc c'est son histoire à lui qui est racontée donc, par cette hôtesse. Donc Jacques et son maître assistent en fait à son récit, se taisent même pour écouter son récit.
Alors, pas tellement, hein.
Alors, ils interviennent, mais ils sont quand même assez curieux de connaître la suite.
Ils se taisent plus que dans d'autres circonstances.
Et disons que quand ils prennent la parole, c'est plus pour en demander encore plus.
Exactement.
Ou commenter. Ou alors demander de la boisson.
C'est-à-dire que, beaucoup de champagne.
Beaucoup de...
Alors, exclusivement du champagne.
Voilà, et demander encore un coup pour Madame de la Pommerée ou pour le marquis d'Arcy.
Voilà.
Disons qu'ils entraînent le récit plutôt qu'ils ne l'interrompent pour le différer.
C'est ça. Et ce sont des relances comiques.
Oui.
Donc il y a aussi ce changement de ton qui est très intéressant à lire, qu'on ne peut pas forcément sentir, ou en tout cas qu'on peut difficilement porter à l'écran comme tel, ça supposerait pas mal de lourdeur hein, de produire un récit enchâssé dans un film. Mais en revanche, ce qui est intéressant, c'est que c'est un récit dont les premiers lecteurs ont tout de suite perçu le caractère autonome et ce qu'ils allaient pouvoir en faire. L'une des premières réceptions, c'est en Allemagne par Schiller et Goethe. Ils sont absolument captivés par cette histoire. Et Schiller entreprend la traduire en allemand. Et elle sera retraduite de l'allemand en français en 1793 pour être produite au public. Puis là, évidemment, qu'est-ce qui s'est passé dans l'intervalle? C'est que la traduction lisse le contexte de la conversation, le contexte de l'hôtesse, et s'intéresse vraiment à la linéarité de cette histoire. Alors, on peut dire que ça dénature un peu la poétique même de Jacques le Fataliste, mais c'est parce que il y a cet écrin narratif posé au milieu du texte qui est constitué par une figure fascinante de vengeance féminine sur laquelle on peut déposer une discussion. Or, là où Diderot laisse les choses ouvertes, la traduction puis la retraduction pose des conclusions.
Ah oui, donc se permet d'interpréter.
Voilà. Hein, donc vous voyez que c'est vraiment une réception première qui pose des bornes, qui impose des frontières au texte et qui considère qu'on peut le lire comme ça indépendamment. Alors c'est le cas, on peut très bien le lire indépendamment. Mais il y manque les éléments de ce grand tissu d'échanges, de dialogues, de voyages qui fait de cette histoire aussi un surgissement de personnages parmi un surgissement général de tellement de personnages.
Alors, mais quel rôle voulait lui faire jouer Diderot à ce texte au sein de Jacques le Fataliste? Est-ce que c'était juste une interruption, un écho? Est-ce qu'il avait une théorie de la vengeance peut-être à développer ou une théorie féministe?
Ça l'intéresse, la question de la vengeance. Ça fait partie de discussions qu'il a avec des proches, avec l'une de ses maîtresses, Madame de Puisieux, a même écrit un caractère de la femme qui se venge, donc ça ce sont des espèces de cas hein, est-ce qu'une femme peut se venger, etc. Mais je pense surtout que c'est placé là où c'est une manière de rassembler des fils qui sont dans l'ensemble du roman autour de la figure féminine, autour du féminin, parce qu'après tout, qu'est-ce que c'est le problème de Jacques et son maître? C'est se raconter leurs amours, savoir à quelles conditions on est heureux ou pas avec les femmes, à quelles conditions elles sont elles-mêmes heureuses, quand elles souffrent, est-ce qu'on peut savoir qu'elles souffrent? C'est une discussion antécédente hein, dans le texte, et même sur la douleur physique. Toi, Jacques, qui n'es pas une femme, est-ce que tu sais ce que c'est que la douleur de l'enfantement? Et Jacques répond non, mais par comparaison, je peux me dire que c'est une grande souffrance, mais bien sûr, je ne suis pas une femme. Alors ce problème-là de ne pas être une femme, c'est un problème de Diderot. lui-même, qui regrette régulièrement beaucoup de ne pas être une femme pour pas, parce qu'il comprend pas ce qui est à l'intérieur. Mm-hmm. Donc, il écrit aussi des récits qui sont autant d'expérimentations pour entrer dans les femmes. Alors, dans leur corps, parfois, et dans leur tête aussi.
Donc, ce récit, c'est une manière pour Diderot, à travers cette hôtesse, de rentrer dans la tête d'une femme qui a envie de se venger.
Et oui, et des femmes, parce que cette hôtesse, c'est une narratrice. Mm-hmm. C'est dans Jacques le Fatalis le moment où une femme raconte une histoire de femme et où elle peut dire aux hommes « je raconte comme je veux ». Et si vous n'êtes pas content, c'est pareil. Mm-hmm. Moi, cette histoire ne me fait pas peur. Et d'ailleurs, je comprends très bien cette femme. Parce que nous, quand on aime d'une façon qui devrait vous faire honte.
Parce qu'ils n'aiment pas bien. Parce qu'ils aiment moins bien.
Pas assez. Pas profondément. Et pas jusqu'au mal inclusivement. Pas jusqu'à la vengeance.
On vient de parler, Florence Lautry, donc évidemment de Madame de la Pommeraye, qui donne son nom au titre de la nouvelle de Diderot, à ce texte de Diderot. On a parlé de l'hôtesse qui narre ce récit à Jacques et son maître. Et puis, il y a aussi quand même deux autres femmes dans ce récit qu'on va entendre tout de suite et qui vont être recueillies justement par Madame de la Pommeraye.
C'est fini, tout est fini. Qu'est-ce que vous dites? Rien n'est fini, je suis là.
Personne ne peut plus rien pour nous.
Je tombe à pic, laissez-moi faire.
Ma pauvre chérie, il n'y a plus rien à faire.
Il y a tout à faire et tout de suite. C'est très simple. Oh. Du calme, du calme.
Oh, je n'en peux plus.
Écoutez-moi. Vous allez avoir une vie digne de vous, je m'en charge.
Quel intérêt pouvez-vous prendre à des femmes comme nous?
Cette petite ne peut pas rester dans ce gâchis. Mon rôle est d'intervenir. Il importe d'abord de rompre avec ce désordre. Et de trouver pour vous et pour Agnès un moyen de vivre moins dangereux.
Mais c'est impossible.
Agnès, bien entendu, renoncerait à s'exhiber en public. Vous liquidez le reste de vos meubles. Vous fuyez cette maison et les hommes qui l'envahissent. Je vous installe.
J'ai des dettes.
Je m'en charge. Vous ne verrez plus personne. Les premiers temps seront durs.
On nous retrouvera.
Si vous ne le voulez pas, on ne vous retrouvera pas. Reprenez votre vrai nom. Vos anciennes habitudes. Effacez 3 ans sur la page de votre vie. Ce n'est pas difficile. Surtout pas de reconnaissance. Je ne vous demande que de suivre mes conseils.
Vous êtes un ange.
Je suis un ange, Agnès est un ange, nous sommes tous des anges. Obéissez-moi et ne vous mettez pas la figure à l'envers. Vous aurez quitté cette maison demain. Reposez-vous, détendez-vous, dormez. Surtout ne me reconduisez pas.
On a retrouvé Maria Cazares sous les traits de Madame de la Pommeraye. Très intéressant, c'est le moment où elle dit « nous sommes tous des anges » alors que précisément, c'est un plan machiavélique, l'œuvre du mal qu'elle est en train de mettre en place. Effectivement, Madame de la Pommeraye a donc décidé de se venger de son amant, le marquis des Arcis, qui ne veut plus être avec elle et qui ne lui a pas dit, a lâchement rompu, et elle veut lui faire payer en le faisant tomber amoureux d'une femme qu'elle va faire passer pour dévote, mais qui est en fait une prostituée. Dans le film de Bresson, c'est une danseuse de cabaret, mais elle décide de se servir, Madame de la Pommeraye, de la mère et de la fille, donc les Duquesnois, de les sortir de la misère, de les faire passer pour dévote, de les instrumentaliser pour servir son propre plan. Alors là, il y a quand même une idée de la femme, des femmes, du point de vue féminin chez Diderot, qui est particulièrement paradoxale, parce que se mettre à la place des femmes en imaginant le pire, on se demande s'il veut véritablement essayer de les comprendre ou déjà s'il a un jugement à émettre.
Alors à ce stade, il n'y a pas de jugement. Il y a simplement le montage de quelque chose de diabolique. Mais le texte, il me semble qu'à ce stade du texte, on n'est pas entraîné très, très nettement a déjà tiré des conclusions, même intermédiaires, sur le caractère diabolique des femmes. Parce que celui qui porte le commentaire de ce point de vue-là, c'est Jacques. Mais il y a l'hôtesse qui fait contrepoint, qui lui dit déjà qu'il n'y comprend rien, que ça n'est pas forcément ça. Il y a le maître qui lui dit « Attends, ce n'est pas forcément ça. Hein. Donc c'est pour ça que les interruptions sont quand même importantes, parce que elles créent une espèce de disjonction dans la lecture, où on est dans un récit, une nappe assez inquiétante, hein, une noirceur inquiétante, et puis pof, il y a des petites interventions sur un mode un peu comique qui nous disent à la fois une chose et son contraire. Ce qui m'a frappé dans l'extrait que vous venez de passer, c'est le dépouillement de Bresson, qui est tout à fait caractéristique de son cinéma, et qui fait que lorsque le spectateur en arrive à ce moment-là de l'action, il n'est pas en mesure de comprendre exactement de quelle sorte de vengeance il est question. C'est plutôt présenté dans le discours même d'Hélène comme une entreprise de conversion. Et Bresson a plutôt tiré, me semble-t-il, le récit vers une interrogation sur la possibilité d'effacer. Alors justement, effacer 3 ans de sa vie, c'est facile. Mmh. Mais en fait, non, c'est pas facile d'effacer le moment du mal et de trouver celui de la rédemption.
Donc effacer le mal de la vie des jeunes filles, de la jeune fille et de la mère dont elle va se servir, ou le mal qu'a commis en fait Madame de la Pommeraye, donc Hélène dans le film de Bresson, en cédant en fait aux avances du marquis des Arcis.
Oui,
il y a les deux.
Et surtout, du coup, chez Bresson, qui a fait Les Anges du péché, juste avant, il y a une forme d'humour, même citationnel, où nous sommes tous des anges. Il n'y a pas d'ange dans cette histoire. Tout le monde a quelque chose à se reprocher. C'est beaucoup plus noir, hein, et puis ça va exiger dans le film une sorte de remontée vers la lumière, qui est difficile, hein, parce que il fait toujours nuit, il pleut, les visages sont toujours à moitié dans l'ombre. On est assez loin de Diderot.
Oui, Diderot est beaucoup plus drôle à lire. C'est-à-dire qu'il y a un côté beaucoup moins diabolique, enfer.
C'est ça. Il y a que Jacques pour dire quel diable de femme, c'est Lucifer en personne. Mmh. Est-ce qu'on peut vraiment prendre ça au sérieux dans le texte? Je ne crois pas. C'est plutôt un jeu autour des lieux communs sur les femmes, sur le mal que font les femmes et sur leur noirceur supposée, qui est largement compensée par la lâcheté et la noirceur des hommes.
Diderot écrit sur les femmes, c'est intitulé d'ailleurs Sur les femmes, il écrit ça en 1772, il dit « impénétrable dans la dissimulation, cruel dans la vengeance ». Constantes dans leurs projets, sans scrupules sur les moyens de réussir, animées d'une haine profonde et secrète contre le despotisme de l'homme, il semble qu'il y ait entre elles un complot facile de domination, une sorte de ligue telle celle qui subsiste entre les prêtres de toutes les nations. Alors on a l'impression d'entendre un anti-féministe actuel qui voit dans la sororité une forme de ligue des femmes entre elles contre les hommes. Est-ce que ça, c'est à prendre au premier degré et ça se retrouve dans ce qu'il dit de Madame de la Pommeraye dans ce récit, ou au contraire, est-ce que c'est beaucoup plus subtil que ça, et c'est plutôt une infinité de points de vue qu'il laisse entendre sur les femmes?
Oui, ben ce serait plutôt ça. Alors il y a quand même cette fascination pour la capacité à se passionner jusque à la cruauté chez les femmes. C'est une fascination qui pourtant ne se contente pas de conclure que les femmes sont comme ceci ou comme cela. Le texte que vous avez lu, son fond, pas secret, son fond absolument explicite, c'est le fait que derrière tout ça, il y a une terreur parfaitement compréhensible des femmes devant la violence sexuelle des hommes. Et c'est un texte dans lequel il dit très clairement « J'ai connu une femme que la simple approche de son époux faisait frissonner ». Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Il y a des mariages arrangés avec des obligations de devoirs sexuels qui sont un véritable enfer pour les femmes. Et ça, c'est quelque chose que l'hôtesse dit tout de suite avant de commencer son histoire. Si vous saviez comme c'est affreux lorsqu'on n'aime pas. Donc vous voyez que là, on est loin d'un antiféminisme, on est plutôt du côté d'un Diderot en empathie complète avec ce que vivent les corps de femmes et l'effroi sexuel qu'il peut y avoir dans la manière dont s'imposent à elles des partenaires non voulus, non souhaités, ou bien qui ont été souhaités mais qui trahissent. Et de ce point de vue, Madame de la Pommeraye, ben il faut encore une fois rappeler qu'elle sort de cette histoire-là, qui est l'histoire des femmes de son temps.
Est-ce que c'était inédit pour l'époque d'avoir un récit dit, raconté sur une femme, raconté par une femme ?
Oui, il y a des romans, bien sûr.
Donc en ça, Diderot n'innove pas ou ne fait pas entendre pour la première fois. Alors quelle est la spécificité dans sa manière de le faire ?
Ben, sa spécificité, ce serait... Alors, tout n'est pas spécifique chez Diderot, il est aussi bien de son temps, hein. Mais dans une histoire comme celle-là, ce serait sans doute de ne pas se satisfaire de conclusions hâtives. Je pense que c'est ça qui fait tout l'intérêt de cette histoire, c'est-à-dire qu'à mesure qu'elle avance, à mesure qu'on peut la commenter, se joue la possibilité de racheter chacun des personnages, en fait, de tour à tour. Et c'est ça que produit cette conclusion qui n'en est pas une, et où, pour le coup, la désinvolture de la voix narrative dans Jacques le Fataliste, qui dit toujours « il ne tiendrait qu'à moi deux, lecteur, si je voulais, je m'arrêterais là », etc. Cette aisance-là, cette désinvolture-là, c'est aussi ce qui va permettre à cette voix narrative de renvoyer le lecteur à ses propres tentations de conclure sur des lieux communs sur les femmes. Et il faut surtout pas le faire, bien sûr. Regardez cette hôtesse. C'est une femme qui raconte, qui s'est très bien racontée, et dont on nous dit régulièrement qu'elle a elle-même une histoire forcément intéressante, qu'elle ne racontera pas, mais c'est une histoire de changement d'état. Elle n'est pas née dans une auberge. Elle a été éduquée à Saint-Cyr, donc c'est pas banal de rencontrer une hôtesse éduquée à Saint-Cyr. Elle a donc aussi pratiqué un ascenseur social descendant. Pourquoi ? Comment ? Qu'est-ce qui fait la mobilité des choses, finalement ?
Et des individus.
Et des individus. Tout est mobile, tout change. Le problème de Madame de la Pommeraye, c'est qu'elle est fascinante par la même raison qu'elle pose difficulté du point de vue moral. Elle est trop absolue. Elle croit aux serments éternels. Elle pense que quand on se fait un serment d'amour éternel, il faut le prendre au sérieux. Or, ce désir d'éternité n'existe nulle part. Tout change.
Donc le point, la leçon de ce point de vue-là de Diderot, c'est l'instabilité permanente des individus, des sentiments, des caractères, des
êtres. De toute la nature dans laquelle les individus sont pris.
Je te vaincrai car ma patience aura bientôt raison de toi. Je te vaincrai car malgré toi, ton remords sera ma vengeance. Faisant fi de mon éloquence et des mots que tu n'entends pas, je resterai sans faire un pas pour prouver ce qu'est l'évidence. La 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 la. J'aurai raison de ta constance à me tromper comme un Judas, car les baisers que tu donnas un jour feront tes lèvres blanches. Je te vaincrai par l'assurance des sentiments que j'ai pour toi. Je n'ai point de haine, crois-moi, ni méchanceté ni violence.
France Culture, sans oser le demander. Géraldine Mosna-Savoie.
Mon ami, quelle folie! De toute façon, votre plan ne tient pas debout.
Et pourquoi donc?
Pourquoi le marquis s'attacherait-il à cette fille alors qu'il ne s'attache à aucune autre?
Parce que le marquis ne résiste pas à ce qui lui résiste. Et si je lui ai inspiré dans le temps des grands sentiments, c'est à proportion de ma résistance. N'avez-vous jamais observé que l'amour grandit quand l'objet de nos vœux nous échappe?
Vous semblez bien sûr de vous.
Si je vous disais que le marquis vient tous les jours me rendre visite pour s'enquérir l'air de rien de quelques nouvelles que je pourrais avoir de cette fille et de sa mère, je vous avoue que je ne m'attendais pas à ce que le marquis soit une proie si facile.
Je crains cependant que votre entreprise soit excessive.
Mon entreprise est en deçà de ma douleur et du coup que le marquis m'a porté.
Soyez juste. N'étiez-vous pas informé de sa nature inconstante ? À quoi nous sert-il d'en vouloir à un homme malhonnête si la nature l'a ainsi fait ?
Serait-il juste de laisser la malhonnêteté vagabonder à son aise ? Ma
colère est pleine d'un esprit de justice. Je ne cherche pas une revanche personnelle. Je vois en moi le genre féminin et en lui le genre masculin.
Pour rendre justice, notre cœur doit être pur et loin de tout ressentiment.
Madame, c'est cette pureté qui m'anime. Si aucune âme juste ne tente de corriger les hommes, comment espérer une meilleure société ?
Il me semble très peu chrétien que d'espérer la souffrance d'autrui.
Oh. Ouvrez les yeux, mon ami, sur le genre humain. Seule la douleur peut aider l'esprit à reconnaître ses erreurs.
Ah. Serait-ce donc par bonté que vous songez à le faire souffrir ?
Oui. Je veux éclairer son esprit.
Autre ambiance, hein, autre adaptation de Madame de la Pommeraye, cette fois-ci par Emmanuel Mouret, c'est en 2018, avec Cécile de France qui joue Madame de la Pommeraye et Laure Calamy qui joue son amie, sa suivante, à qui elle confie son plan. On y entend dans cet extrait deux choses intéressantes, Florence Lautry. D'une part, cette question de la gente féminine, hein, la vengeance des femmes contre le genre masculin, et puis cette idée quand même de vengeance pour le bien. Alors là, c'est quand même une sacrée théorie que nous déploie ici Diderot. Est-ce que c'est aussi clair d'ailleurs dans le texte de Diderot, cette idée quand même que la vengeance a un but et que ce but, c'est le bien ?
Je ne crois pas. Je ne crois pas. Le texte de Diderot nous engage plutôt sur une réflexion sur le caractère personnel de la vengeance, sur son caractère élitaire, aristocratique, et pas tellement sur la question de l'exemplarité pour le genre humain et pour la guerre des sexes. Puisque dans les répliques telles que Mouret les a mises dans la bouche de Cécile de France, c'est très explicite que cette exemplarité, c'est d'abord celle d'une forme de féminisme. Alors, il y a une forme d'actualisation ponctuelle dans le film de Mouret qui est parfaitement recevable, mais qui serait plus discutable en la référant au texte lui-même, qui pose quand même la question du rapport de sexe comme noué au rapport social aussi. Hein, c'est-à-dire que cette machination, c'est une machination qui se tient du point de vue de quelqu'un qui perçoit son exceptionnalité à la fois comme femme et comme partie prenante d'un monde et d'une caste sociale. C'est quelque chose qu'on voit très bien chez Bresson, ça. C'est cette Hélène qui monte par des ascenseurs et pas par des escaliers et qui est une grande dame qui est animée par un mépris souverain des créatures qu'elle machine. Ça, c'est quelque chose, c'est une question qui est posée chez Diderot et qui est posée par cette histoire et dans la suite. Parce que la suite de l'histoire, la suite immédiate, c'est une querelle entre Jacques et son maître sur les hiérarchies sociales.
Donc en fait, c'est une histoire de vengeance qui est à la fois une histoire, un drame intérieur, un drame intime, une colère, voilà, d'être d'un amour déçu. Et en même temps, c'est véritablement presque quelque chose sur la lutte des classes, quoi. Il y a à la fois la lutte des sentiments et une histoire de classe sociale.
En tout cas, il y a cette question qui est posée. Je ne sais pas si on peut parler tout de suite de lutte des classes,
mais j'ai forcé l'anachronisme. Mais oui,
Diderot est un vrai est un héritage revendiqué chez les marxistes, mais de fait, cette question des places sociales et de la possibilité d'en changer est complètement impliquée dans cette affaire, parce que ce que fait la marquise, c'est qu'elle elle compte sur un scénario. Qui forcément va être un scénario de flétrissure, qui forcément va fonctionner, parce que le marquis appartenant au même monde qu'elle, le déshonneur le frappera autant qu'il la frappe, elle, d'un point de vue social. Donc, et c'est pas ce qui va se passer.
Alors, est-ce que vous voulez nous dévoiler...
On va peut-être pas spoiler tout de suite, s'il faut suivre le fil.
On a encore un
fil.
On a encore 20 minutes.
De cette histoire, mais ça n'est pas ce qui va se passer. Et la présence de Laure Calamy, c'est ce contrepoint-là. C'est-à-dire, est-ce que quand on monte un scénario et avec une série de rôles dans lesquels on va tout prévoir de ce qui va se passer, est-ce qu'on peut tenir que tout est écrit sur ce grand rouleau, ou ce petit rouleau en l'espèce, de cette mystification, ou est-ce qu'il ne faut pas compter avec l'imprévisibilité de la vie, des êtres, du sentiment, de la chair, Et c'est ce qui va se passer.
Exactement. Donc, on retrouve cette idée, Florence Lautry, de mobilité, d'instabilité qui est propre à la philosophie de Diderot.
Oui, absolument. Et qui est très présente dans l'ensemble du roman, qui en constitue même la matière philosophique et qui se met à l'épreuve de cette structure picaresque où on rencontre des gens, où on rencontre la question du hasard et celle de la nécessité, mmh. on rencontre la question difficile de la liberté qui est reprise à la fin du roman, et où finalement le déterminisme matérialiste se confronte lui-même à la question de l'accident.
Mmh. Donc l'accident du sentiment, l'accident
oui,
de...
Et l'accident même dans la matière, parce qu'après tout, Diderot est un matérialiste moniste. Dans cette unité totale de la matière, nous sommes tous des formes, nous sommes constitués par une série de formes qui se sont construites de manière nécessaire si on suit des enchaînements de la causalité, mais par accident successif de la matière. C'est la raison pour laquelle Diderot accueille le monstre dans sa philosophie matérialiste et il l'accueille aussi dans le monde moral. Je suis un monstre. Dit Maria Cazares à un moment dans le film de Bresson. C'est un très bel hommage à Diderot. Ce qui l'intéresse le plus finalement dans toute cette affaire, c'est le caractère soudainement inattendu d'un monstre, mais pas un monstre au sens où il faudrait conclure, c'est un monstre moral. Bon, allez, c'est un monstre, on va l'exclure complètement de notre univers. Et il faut absolument... revenir au bien, à la vertu, etc. Il n'y a pas de vertu ni de vice dans la philosophie de Diderot, d'une certaine manière, mais en revanche, il y a des accidents qui produisent des êtres qui, constitués du coup autrement que ce à quoi on s'attend, vont produire aussi une histoire différente de celle à laquelle on peut s'attendre.
Donc ça vaut autant pour Madame de la Pommeraye qui était donnée comme une femme vertueuse, de haute lignée, donc avec quand même des règles, un code d'honneur, et qui en fait va céder à une vengeance assoiffée. Et aussi, ça vaut aussi du coup pour le plan qu'elle a dressé dans sa vengeance, c'est ça ?
Voilà, c'est-à-dire qu'on peut toujours se dire que la vie fonctionne comme un plan, mais malheureusement, ce n'est pas, enfin heureusement, ça n'est pas ça. C'est une série de rencontres, de bifurcations, de surprises. C'est aussi un lecteur de Marivaux, donc. Ces surprises-là, eh bien, elles participent en quelque sorte aussi du plan, et elles sont constitutives d'une forme de liberté paradoxale dans la nécessité. C'est aussi ce qui intéresse quelqu'un qui raconte une histoire. Une histoire, on peut l'apprendre par sa fin. On peut en faire quelque chose qui se déroule depuis sa fin et qui va forcément vers une conclusion, d'où la malice de Diderot de dire tout de suite, voilà, il y a un mariage saugrenu à la fin. Mais on peut aussi se dire que dans l'intervalle de ce télos se joue une série de choses complètement inattendues qui doivent nous faire réfléchir nous-mêmes sur notre instabilité.
Ce qui veut dire que toute idée de vengeance n'est pas rendue illégitime par Diderot parce qu'elle serait mauvaise, mais parce qu'en fait, elle contredit une idée même presque métaphysique qu'il a du monde, à savoir qu'il est proprement instable. Et que la vengeance, parce qu'elle veut suivre un programme, suivre une nécessité, finalement, est forcément, fait forcément face au hasard.
Oui, et parce que ce despotisme du plan en rejoint un autre, qui est le despotisme de la permanence des sentiments. Dans ce code d'honneur auquel se réfère Madame de la Pommeraye, il y a cette hypothèse folle qu'une fois qu'on s'est juré fidélité éternelle, ça doit tenir. Et vous remarquerez que dans le plan qu'elle ourdit, finalement elle a rencontré l'accident, qui est l'inconstance, et bien elle va se servir de cette inconstance même, d'un tempérament, mais pour rebondir sur son péché mignon, qui est le sens aigu, trop aigu de la prévisibilité des êtres et des circonstances.
Il y a une critique aussi en creux de la nécessité, mais en fait aussi de la nécessité telle qu'elle était pensée à l'époque selon une certaine théologie, c'est-à-dire qu'il y a la nécessité de Dieu, la nécessité divine. D'ailleurs, le personnage de Madame de la Pommeraye qui décide qui donne une liste de commandements à ces deux femmes, donc la mère et la fille, est terrible parce qu'en fait, en plus, elle les oblige à devenir dévotes. Donc, il y a vraiment une couche, plusieurs couches qui sont ajoutées les unes sur les autres, sur cette dimension morale, mais critique à l'égard d'une morale divine et qui se voudrait nécessaire et autoritaire.
Absolument, vous avez parfaitement raison. Et ça, ce sont des éléments qui, paradoxalement d'ailleurs, s'effacent un peu dans les adaptations. Je dis paradoxalement, surtout pour Bresson, que la question religieuse occupe beaucoup. Enfin, il passe par autre chose. Mais il y a une irrévérence religieuse extrêmement forte dans Jacques et dans cette histoire en particulier. C'est-à-dire que Madame de la Pommeraye sans le fagot, presque autant que son libertin d'amant inconstant, hein, puisque dans ces fameuses directives qu'elle donne, il y a toute la satire des postures de la dévotion et en effet de la prétention à inscrire la morale dans le monde du point de vue de la religion. Et bien sûr, ce code religieux n'est pas du goût de Diderot, pour lequel il ne peut exister qu'un code social qui lui-même ne vaudra que s'il est capable de répondre aux injonctions du code de la nature.
On va écouter, alors non pas le dénouement, alors le dénouement dans le sens où il s'agit du dévoilement de la vengeance de Madame de la Pommeraye face au marquis des Arcis, et on écoutera après la manière dont le marquis des Arcis va réagir en fait à ce dévoilement.
Si c'est une farce que vous me jouez tous, elle est fort mal à propos, madame.
Mais à propos, vous trouvez. Vous aviez acquis une honnête femme, et vous vous en êtes lassée. Cette femme, c'est moi. Par charité, je vous en ai fait épouser une digne de vous.
C'est vous qui avez...
Si les autres femmes dans ma situation avaient assez d'estime pour elles, elles agiraient comme moi. Et vos semblables seraient moins communs.
Mais madame, notre amitié...
Quelle amitié ! Marquis, vos désirs vous occupent tellement que vous ne savez pas regarder dans le cœur des autres, même les plus proches de vous. Vous ne voyez rien au-delà du voile que nous impose la pudeur. Et si l'âme la plus tourmentée vous sourit, vous souriez, sans deviner la détresse qui la dévore.
C'était donc une comédie.
Qui, rassurez-vous, amusera tout Paris.
J'adore ce moment en fait de ce film, mais aussi du récit en fait qui est terrible de Diderot quand Madame de la Pommeraye dévoile en fait toute sa manigance, sa mystification au marquis, la manière dont Cécile de France rit du malheur du marquis interprété par Édouard Baird. Je dois dire que c'est assez jubilatoire. Enfin, moi j'aime beaucoup ce moment-là, même s'il est horrible à regarder, mais parce que finalement on a malgré tout, malgré la leçon sous-jacente de Diderot sur la non-nécessité des choses, de la vengeance et le hasard de la nature, on a quand même une vengeance qui l'a en fait réussi. C'est-à-dire que le marquis est surpris, il tombe de sa chaise, enfin, je ne sais pas comment le dire, les bras lui en tombent.
Il n'est pas seulement surpris, il est ridicule.
Oui.
Et on n'entend pas que le rire de Cécile de France, on entend
les rires derrière,
le rire social,
c'est l'humiliation publique,
voilà. Et ça, vous avez raison, la vengeance est réussie temporairement. Par contre, ce qui est très intéressant aussi, c'est ce qu'elle rappelle pour monter une vraie mystification, un persiflage. Il faut trois positions. Il faut un persifleur, il faut un persiflé, et il faut un public. Ça ne marche et ça n'est efficace et ça ne va jusqu'à son terme le plus cruel que s'il y a un public qui rit de celui ou de celle qui est pris dans une situation dont il ne maîtrise rien, dont le texte lui a été donné et dont les paroles qui sont échangées autour d'elle ou de lui ne lui sont jamais perceptibles dans leur double sens. Et l'un des grands plaisirs qu'on a à lire cette histoire, ou à voir le film de Mouret en particulier, hein, qui joue beaucoup là-dessus, c'est d'entendre ce double sens des situations et des mots en voyant quelqu'un qui ne les entend pas, qui est aveugle. Autrement dit, nous, public, on est dans cette position cruelle. Et finalement, cette détente vous avouez pour vous-même, c'est pas joli, joli, c'est que on est nous-mêmes pris dans la réussite, non pas seulement de la mystification, mais de sa cruauté et du fait qu'on rit de quelqu'un qui n'a pas su, qui n'a pas compris, qui est resté aveuglé. Alors, libre à nous de réfléchir sur cet aveuglement.
Ou alors, on jouit d'une sympathie avec Madame de la Pommeraye.
Oui, aussi.
On prend plaisir avec elle à la voir prendre sa revanche. Elle qui avait perdu sa vertu pour lui, elle qui avait accepté, hein, c'est très bien dit dans le texte de Diderot, qui avait accepté de chuter dans l'échelle sociale pour lui. On est heureux pour elle que finalement les choses soient renversées.
Oui, c'est vrai. C'est un moment assez agréable, effectivement, face à ce libertin consommé qui ne sait rien faire d'autre qu'être libertin. Mais là où, on va finir par y arriver,
oui.
là où l'imprévisibilité arrive et l'ironie, c'est presque une ironie tragique, oui. En tout cas c'est une ironie dramatique très forte que Diderot nous a ménagée, c'est que le scénario du libertin racheté, du libertin qui devient vertueux, finalement va fonctionner contre l'attente même de celle qui a fait semblant de poser cette visée comme étant son objectif.
Alors le suspense effectivement a assez duré. Ça,
oui,
c'était
insoutenable.
C'est insoutenable. Le premier dénouement, effectivement, c'était la réussite de cette vengeance. Mais il y a un deuxième dénouement. On les a très peu entendus jusque-là. Il s'agit du dénouement entre le marquis des Arcis et donc la jeune fille du Quesnoy qui se retrouve alors que lui sait qu'elle a été prostituée et elle comprend qu'elle a été victime d'une machination.
N'est-ce pas par la contrainte que vous m'avez menti, vous avez consenti à cette union ?
Oui, monsieur.
Eh bien, apprenez que ma raison et mes principes ne sont pas ceux de tous mes contemporains. Ils répugnent à une union sans inclination. Je vous en votre liberté.
Monsieur, désignez-moi le recoin le plus obscur de votre maison, vous permettrez que votre femme habite. J'y resterai sans murmure.
Madame, vous n'avez pas compris, vous êtes libre.
Je ne serai vraiment libre que lorsque vous pourrez juger de ma conduite. Que lorsque vous pourrez lire au fond de mon cœur et voir combien je déteste le mensonge. Je serai libre le jour où vous verrez combien mes fautes passées sont loin de moi.
Madame, je vous crois sincère. Si jamais il est sorti de ma bouche une parole qui vous est humiliée, je m'en réponds, madame. Soyez assurée que plus jamais ma femme n'entendra un mot qui puisse la blesser.
Mais je peux me dérober pour jamais à vos yeux. Parlez, j'y vais. Votre bonheur n'est point perdu, vous pouvez m'oublier.
Madame, je vous ai pardonné, je vous l'ai dit.
Voilà le véritable dénouement de l'histoire de Madame de la Pommeraye, dénouement dont elle n'est pas l'héroïne, puisque finalement le marquis et la jeune fille, contre toute attente, sont vraiment amoureux et décident décident de vivre leur amour à l'écart de la ville. Lui accepte parfaitement en fait de s'être mariée avec une ancienne prostituée. Elle accepte de se repentir de son passé et de cette machination. Finalement, tout va bien, sauf pour Madame de la Pommeraye.
Oui, alors ce qui crée la surprise, c'est quand même cette situation assez improbable d'un aristocrate qui admet une mésalliance extrêmement forte.
Elle assume.
Qui l'assume, qui accepte aussi de couper avec sa vie antécédente, de partir prudemment
sur ses terres,
à la campagne pendant 3 ans. Hein, il mesure en, en homme qui sait, qui a de l'expérience, qu'il faut au moins 3 ans pour abattre
que ça se tasse un peu.
Voilà, un scandale pareil. Et puis surtout, c'est le moment où on entend la voix de cette, de ce personnage très en retrait dans le texte, hein, mm-hmm. auquel est donné assez peu de place narrative ni dans le dialogue, et qui est la jeune fille. Et cette voix qui s'élève soudain, c'est une voix qui ne peut pas, elle n'a pas été scénarisée finalement.
C'est d'ailleurs ce qui est dit à la fin du texte de l'histoire de Madame de la Pommeraye, c'est-à-dire que il y est dit, c'est le maître, il me semble, qui dit ça. Il dit :« Je n'ai point été satisfait de cette fille, pas un instant de crainte, pas le moindre signe d'incertitude, pas un remords. Je l'ai vue se prêter sans aucune répugnance à cette longue horreur. Tout ce qu'on a voulu d'elle, elle n'a jamais hésité à le faire. Elle va à confesse, elle communie, elle joue la religion et ses ministres. Elle m'a semblé aussi fausse, aussi méprisable, aussi méchante. » Que les deux autres. Et après d'enchaîner en disant à l'hôtesse, il aurait fallu mieux l'introduire dans le récit, lui faire jouer un vrai rôle. Et c'est vrai que cette femme, jusque-là, n'a pas de voix. On ne sait pas vraiment ce qu'elle pense.
Non, quasiment pas. Et bien entendu, c'est un choix. Et c'est un choix de Diderot que lui-même offre à la sagacité du lecteur par le commentaire du maître. Hein. Qu'est-ce que c'est que ce récit ? D'ailleurs, c'est une question de poétique en même temps, hein, puisqu'il dit à l'hôtesse, vous ne racontez pas si bien que ça. Si vous aviez lu mes textes sur le théâtre, parce que c'est un peu Diderot qui parle à ce moment-là, vous sauriez qu'il faut amener un personnage dans l'action de manière à satisfaire à son unité de caractère. Et là, qu'est-ce que c'est que cette fille qui passe de but en blanc, du statut de prostituée introduite dans une machination volontairement, à celui de jeune femme vertueuse et amoureuse en pleurs devant son époux? Il y a là quelque chose qui pourrait ne pas fonctionner, qui détruirait l'illusion en fait hein, du récit. Et c'est là que l'hôtesse répond quelque chose de très intéressant. Elle dit, mais vous ne savez pas tout. Qu'est-ce qui vous dit que j'ai raconté ce que je sais? Et c'est une vraie question de la place du narrateur et de la narratrice et du savoir du narrateur avec lequel joue Diderot pendant tout le roman. Là où on n'était pas, on introduit arbitrairement des éléments comme on veut, parfois au détriment de la vraisemblance classique, mmh. ce n'est pas le problème, puisque cet arbitraire du récit fonctionne très bien avec l'hypothèse du hasard et de l'accident. Mais il y a peut-être des éléments qui sont racontés par une voix, qui est partielle, qui est partiale, et il existe d'autres versions, et puis il y a ce qu'on ne peut pas raconter parce que c'est à l'intérieur des êtres, mmh. et que ça ne s'exprime pas nécessairement de manière à ce que la simple mémoire sociale des actions permet d'exprimer. Parce que cette histoire, il faut se souvenir qu'au début, c'est une histoire que l'hôtesse raconte, mais elle la tient d'une de ses employées, qui elle-même la tient, etc., qui la tient du mari, qui la tient quasiment de l'ours. Voilà, exactement. Et tous les contes de Diderot, et notamment lorsqu'il est question de juger des femmes, rappellent ça. Hein. Oui, mais ça, mon ami, vous êtes en train de juger ce récit et cette femme dont nous venons de parler en fonction d'une certaine voie publique qui s'est fixée, une certaine mémoire qui s'est fixée des mm-hmm. actions, même dans l'immédiat, si ce sont des histoires qui sont déroulées il n'y a pas longtemps. Mais au fond, est-ce qu'on sait toujours tout ? Est-ce qu'on sait quels sont les mobiles profonds des êtres ? Il appartient certes au romancier d'aller explorer ça, mais il lui appartient aussi de rappeler qu'à chaque fois qu'on raconte une histoire, on la raconte d'un certain point de vue.
Alors il y a aussi cette idée, vous l'avez dit, hein, Florence Lautry, d'instabilité, mais malgré cette instabilité, cette non-permanence que défend Diderot, est-ce qu'il n'y a pas quand même l'idée d'un perfectionnisme moral ? C'est-à-dire d'une évolution, le marquis semble racheté, lui qui était un libertin finalement, rencontre l'amour, accepte au-delà en fait des représentations sociales, du vernis social, oui. L'amour dans toute sa pureté. Pareil pour cette jeune femme qui finalement a connu des errances, a dû se prostituer et puis finalement se rachète aussi, c'est-à-dire à un nom, à une certaine dignité. Et qu'à l'inverse, y a quand même Madame de la Pommeraye qui chute d'une certaine manière. Donc il y a quand même une idée de perfectionnisme dans cette histoire.
Vous venez plutôt d'évoquer un schéma de substitution que d'évolution. Parce que pendant que l'une retombe, l'autre remonte. Ces deux femmes, elles ont chuté d'abord socialement par une ruine.
Donc elles ne sont pas tant opposées que ça, en fait. C'est pas le bien et le mal, c'est vraiment des versions de la même personne à des moments différents, on pourrait dire.
On pourrait le lire comme ça. On pourrait le lire comme ça, comme des doublures qui ne sont pas saisies au même moment de leur histoire et qui constituent les possibles d'une même vie. On pourrait le lire comme... Si on veut vraiment tirer ça du côté de la question des femmes, et comme beaucoup de romans de l'époque d'ailleurs, on pourrait lire ça comme une série de propositions sur les destinées féminines. Mais aussi, dans cette série de propositions, vous voyez monter, descendre, un rappel de ce que la question des femmes, comme mineure sociale, ne peut pas être exclusive de la question des hiérarchies sociales dans lesquelles tout le monde est pris. Alors, quand est-ce qu'on monte et quand est-ce qu'on descend? Et lors de la querelle qui va suivre entre Jacques et son maître, il y a la mise en scène de ça, où le maître demande à Jacques, tu vas descendre cet escalier. Je suis fâché, descends, sors d'ici. Et où l'hôtesse va dire, non mais, il va descendre, et puis je vous propose qu'il remonte immédiatement. On fait un contrat, et immédiatement le contrat inverse. Et comme ça, votre querelle est vidée. Mais ça, c'est pas évolutionniste. Pas du tout.
Ou perfectible.
C'est possibiliste, je dirais. C'est-à-dire que, voilà, on peut, de moment en moment, se trouver dans une situation et puis dans une situation exactement opposée. C'est pas du tout aberrant d'être éduqué à Saint-Cyr et de se retrouver aubergiste.
Donc, l'histoire de Madame de la Pommeraye, on peut supposer qu'elle n'est pas scellée. Comme le laisse d'ailleurs.
Elle n'est pas finie.
Voilà, elle n'est pas finie. Non. Comme le laissent entendre d'ailleurs les deux adaptations au cinéma, parce qu'on a l'impression que c'est terrible, que c'est la fatalité qui s'abat dans les deux adaptations sur Madame de la Pommeraye. Mais finalement, ce que nous dit Diderot, c'est que effectivement, Madame de la Pommeraye a peut-être raté sa vengeance. Mais qui sait, peut-être rebondira-t-elle dans quelques épisodes, c'est ça?
Oui, et puis il y a d'autres propositions de lecture, où le maître qui est si défiant à l'égard de cette jeune fille n'a peut-être pas complètement tort. Qu'est-ce qui nous dit que cette histoire va se poursuivre comme ça? Qu'est-ce qui nous dit qu'un libertin revient toujours? Et définitivement, on a déjà eu un échec de ce point de vue-là avec Madame de la Pommeraye. Qu'est-ce qui nous dit que l'histoire ne va pas se répéter? Rien. Rien ne nous dit ça.
Surtout que le début de l'histoire, et on va s'arrêter là-dessus, Florence Letré, c'est qu'il voit le marquis des Arcis qui maltraite un chien dans une auberge.
Oui, c'est pas un personnage très recommandable. Et qui maltraite les animaux, maltraite assez facilement les humains. C'est aussi une des leçons du texte.
Merci beaucoup Florence Letré de nous avoir parlé de cette histoire que j'adore, donc Histoire de Madame de la Pommeraye. Vous pouvez la lire aux éditions Folio Classique. C'est d'ailleurs édité aussi avec l'essai de Diderot sur les femmes. De vous Florence Letré, on peut lire l'édition dossier présentation de la religieuse de Diderot. C'est aux éditions GF, ça tombe bien parce que c'est à la Greg. Le genre des Lumières, femmes et philosophes au XVIIIe siècle, c'est aux éditions Classique Garnier. Et enfin, Progrès et perfectibilité, on en parlait, un dilemme des Lumières française 1755-1814 aux éditions Voltaire Foundation. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Je me vengerai.
Traîner sur le port ce soir, je dormirai dehors. Jouer la comédie, je n'y arrive plus. La ville noire s'endort ce soir. Je serai sans remords. Ta voix se sera-tu. Je ne rentrerai plus. C'est dans les mauvais lits que naissent les mensonges. Le jour de ton désir, je m'en suis exilé.
Merci à l'équipe de Sans oser le demander, Anaïs Isbert, Marie-Lise de Saint-Salvi, Gwendoline Troiano, Cyril Marchand et Laure Dallest. Réalisation Louise André, prise de son Ludovic Auger. On se retrouve demain pour oser se demander à quand remonte la première gueule de bois. On se retrouve aussi sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, et bien sûr sur le site de France Culture, à la page Sans oser le demander, ou encore sur l'application Radio France. À demain.